Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast La Voix des RH. Aujourd'hui, nous allons parler charges sociales, contrôle URSSAF, des thématiques qui sur le papier sont pas forcément hyper sexy, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses à en dire. On va parler aussi de rémunération, de la manière dont on peut les optimiser au sein des entreprises. Je suis Vincent Guenbourget, directeur administratif financier et RH dans ma vie professionnelle. Je réalise aussi du contenu sur LinkedIn et la rédaction d'une newsletter dédiée aux chiffres au sein de la fonction RH. Et donc du coup, c'est parfait, parce que c'est la thématique du jour, donc elle m'intéresse. Et j'ai le grand plaisir d'en parler avec Marion Bourdereau. Marion, si tu veux bien te présenter avant qu'on entre dans le vif du sujet.
Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Marion Bourdereau, consultante chez Aiming. J'accompagne mes clients dans l'optimisation et la sécurisation de leurs charges sociales. Avant de faire de l'audit, j'ai une expérience de 10 ans sur des postes RH généralistes où je faisais différentes missions RH, mais notamment la gestion, la réalisation ou la supervision de la paye. En gros, je suis une RH qui est passée de l'autre côté de la barrière.
Et qui, du coup, je suppose, te permet d'avoir une vision très large du sujet, bien comprendre à la fois les problématiques des entreprises, de la partie chiffres jusqu'à la fonction RH. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu me le disais juste avant qu'on commence ce podcast, tu voyais l'activité des contrôles URSSAF repartir à la hausse, chose qui s'était un petit peu tassée ces derniers temps avec la période Covid. Comment ça se traduit aujourd'hui? Quels sont les sujets que les contrôleurs URSSAF vont aller regarder de plus près? Parce que je pense que ça intéresse beaucoup d'entreprises.
Oui, effectivement Vincent, tu as raison. Aujourd'hui, les contrôles reprennent de plus belle. On a une belle reprise post-Covid. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que 90% des contrôles URSSAF amènent à une régularisation des cotisations. Alors, souvent majoritairement à un redressement. Ce qui me semble important de partager aujourd'hui, c'est les nouveaux sujets de contrôle. On a le versement mobilité itinérant, par exemple. Il y avait un décret du coup qui date de 2017. Après ce décret, s'est suivi une période de tolérance de la part des URSSAF. Et maintenant, les années qui sont contrôlées, du coup, peuvent faire objet d'un redressement sur ce sujet-là. Nouvelle prérogative aussi des inspecteurs URSSAF, c'est la contribution pour l'obligation d'emploi des collaborateurs en situation de handicap, qui du coup maintenant fait partie de leurs prérogatives.
Ce qu'on appelle la DOETH.
Exactement.
Pour ceux qui ont l'habitude.
La DOETH, donc qui était du coup avant déclarée auprès de la GFIP, maintenant qui du coup est déclarée auprès de l'URSSAF. Donc on a un vrai changement à la fois dans le mode de calcul de la contribution et dans le mode de déclaration du coup auprès de l'URSSAF en DSN. Et aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on a de nombreux écarts. Je pense notamment aux grands groupes qui ont des nombreux établissements avec peu de collaborateurs pour qui du coup la réforme a eu un vrai impact dans le mode de calcul.
Oui, parce que qu'on comprenne bien, auparavant, on calculait ça au niveau de la société et on a changé le mode de décompte, on l'a fait basculer sur les établissements, c'est ça?
Alors, effectivement, il y a une petite subtilité. Avant, ça dépendait si l'établissement était, du coup, considéré comme autonome dans sa gestion ou pas. Donc, ça pouvait, du coup, être un calcul par établissement ou, du coup, par société en fonction de ce critère-là. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, on fait une seule déclaration globale. Donc, pour les groupes qui avaient beaucoup d'établissements, mais avec moins de 20 collaborateurs, il n'y avait pas forcément la même obligation que maintenant, aujourd'hui.
D'accord. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que la législation évolue, on n'a pas forcément conscience de l'impact réel, bon, même si on devrait en avoir conscience, hein, c'est bien aussi la problématique des RH qui doivent savoir gérer tous ces sujets-là. Et donc l'URSSAF là vient valider la pratique, et si c'est pas bon, bah, malheureusement, il y a potentiellement quelque chose à payer à la sortie. Je me posais la question, on parlait beaucoup de droit à l'erreur, notamment, ça a été des annonces politiques. Est-ce que, globalement, ce qu'on voit dans les contrôles, c'est qu'il va y avoir un redressement tout de suite ou va y avoir peut-être, j'allais dire, une plus grande tolérance des inspecteurs URSSAF, notamment lors des premiers contrôles sur des thématiques nouvelles?
Alors, effectivement, ça va dépendre du sujet et surtout, ça va dépendre si le sujet a déjà été identifié par le contrôleur lors d'un éventuel contrôle précédent. Effectivement, si on a averti une première fois l'entreprise que du coup sa pratique n'était pas la bonne, forcément, la deuxième fois, les règles se durcissent et le redressement du coup à ce moment-là plus important. Je voudrais juste rappeler du coup sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui un contrôleur SAF, ça ne concerne pas que la paye et le service RH. Ça concerne aussi du coup toute la partie administrative et financière. Je pense particulièrement aux notes de frais, aux frais professionnels des collaborateurs et aussi à la partie de tous les avantages qui peuvent être accordés par les comités économiques et sociaux, les CSE. Et du coup, c'est vrai qu'on oublie en fait un peu des fois cette partie-là, ces motifs-là, qui sont toujours des motifs aujourd'hui de redressement qui sont importants.
Oui, parce que je suppose qu'il y a une thématique qui consiste à dire, OK, là, vous indemnisez vos collaborateurs dans le cadre de déplacements, sur de l'hébergement, sur des frais kilométriques. Il faut qu'on regarde si, en fait, les conditions sont remplies pour qu'on exonère de cotisations ces remboursements et qu'on ne déguise pas du salaire. C'est ça, finalement, que l'URSSAF va venir vérifier au sein des entreprises par des échantillons. D'ailleurs, comment ça se passe quand un contrôleur URSSAF vient au sein de l'entreprise, il va aller contrôler tous les éléments ou je suppose qu'il doit cibler peut-être certaines thématiques?
Alors, effectivement, déjà, ça dépend des spécificités qu'on peut rencontrer dans l'entreprise, hein, de ce qu'elle va utiliser du coup comme dispositif de rémunération.
Oui.
Et après, ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise et de la mise à disposition du coup des documents. Pour avoir plus d'informations sur les différentes méthodes utilisées par les inspecteurs, je vous invite à réécouter du coup le podcast qu'on avait enregistré l'année dernière sur le sujet. Mais effectivement, il peut arriver du coup que l'inspecteur, face à un nombre soit manquant de données ou soit trop important de données, puisse utiliser ce qu'on appelle un échantillon et du coup faire une extrapolation du coup pour pouvoir établir un chiffre pour faire son redressement.
Oui, il se dit que, par exemple, il a contrôlé l'équivalent de 10% des salariés, il voit que ça se passe comme ça pour 10% des effectifs, donc il va étendre ça pour 100%, il va faire une sorte de prorata pour calculer le montant de la régularisation et des pénalités à verser.
Effectivement, ça peut être le cas. Et c'est là où, du coup, être accompagné par un prestataire externe peut être intéressant pour l'entreprise. Par exemple, chez un de nos clients, à peu près 5000 collaborateurs, on avait observé un redressement URSSAF sur le motif de la réduction générale qui était de un peu plus d'un million d'euros. Mmh. Et du coup, on a pu faire un recalcul intégral de l'intégralité de la réduction générale sur l'année et la période qui était contrôlée. Et on a réussi à faire descendre ce redressement à un petit peu plus de 500 000 euros. Donc ça peut être intéressant des fois, quand l'URSSAF utilise ce genre de méthode, de faire appel à un prestataire qui est capable de faire du coup un recalcul intégral.
Belles économies à la clé pour l'entreprise, c'est sûr que ça doit changer la donne. Et du coup, bon, voilà. C'était peut-être un petit peu long dans cette intro, mais c'était intéressant de parler de la thématique URSSAF parce que, en fait, le point que ça m'amène à aborder, c'est finalement comment on processe derrière au sein de l'entreprise pour justement ne pas craindre de redressement lorsqu'il y a contrôle, puisque un jour ou l'autre, généralement, le contrôle URSSAF a lieu. Sur le sujet, j'aimerais t'interroger un petit peu parce que la technologie aidant, aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui ont des suites de logiciels RH qui leur permettent de gérer justement tous ces aspects de paye et de rémunération. Ils disent, moi j'ai un super logiciel, ça doit super bien marcher, je ne crains rien. Est-ce que c'est le cas?
Alors, oui et non, j'ai envie de répondre. Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, on constate quand même que les solutions qui sont présentes sur le marché sont de plus en plus fiables. Je parle d'un point de vue calcul de paye pur. Aujourd'hui, on a aussi des solutions qui mettent à disposition des collaborateurs, donc c'est ce qu'on appelle l'expérience RH et l'expérience collaborateur, des outils qui leur permettent du coup plus facilement de faire, comme on parlait, les déclarations des notes de frais ou pour envoyer leurs justificatifs. Donc effectivement, on a des solutions qui sont, j'ai envie de dire, plus fiables et qui sont plus pratiques, plus ludiques. Donc les entreprises, elles ont raison d'investir dans ce genre de solutions. Par contre, derrière, il faut avoir en tête que la solution, elle fait pas tout de manière automatique. On parle, par exemple, en ce moment, on a beaucoup d'entreprises technologiques qui ont beaucoup grandi, qui ont connu une forte croissance. Et je pense, par exemple, aux effets de seuil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs d'exonération ou de réduction des charges sociales qui sont en fonction de l'effectif de l'entreprise. Mais ça, la solution, elle ne va pas le calculer tout seul.
Donc, oui, elle ne projette pas en avance ce qui va se passer en fonction de la taille de l'entreprise, si elle passe les 50 ou plus de salariés, c'est ça?
C'est exactement ça. Donc, il faut quand même ne pas oublier que derrière, il faut quand même une personne, donc l'humain, qui est là pour reparamétrer au fil de l'eau, du coup, la solution pour qu'elle puisse toujours rester en conformité. Donc, la solution seule ne suffit pas.
D'accord. Et Au-delà de ça, je pensais justement, parce que la solution ne suffit pas, moi j'ai un exemple qui me vient en tête aussi, c'est finalement c'est très bien tout ce qui est dématérialisé, mais au bout d'un moment aussi il y a des justificatifs toujours à fournir. Je pense notamment aux mutuelles d'entreprise par exemple. On sait que les mutuelles, depuis quelques années, c'est un dispositif qui est exonéré, c'est un avantage donc qui n'a pas le même régime que du salaire, on ne paye pas le même montant de charges sociales dessus. Mais pour pouvoir justifier qu'on en fait bien bénéficier tous les collaborateurs et que s'il y a des exceptions, elles doivent être précisément justifiées, je ne sais pas, moi, il y a un conjoint qui a déjà une mutuelle obligatoire et donc un collaborateur dit « moi, je n'en veux pas », l'URSSAF, je suppose que quand elle va passer, elle va dire « bon, vous pouvez me prouver que la personne avait bien son conjoint qui avait bien déjà une mutuelle, raison pour laquelle il a refusé, et que du coup, je vous garantis le bon régime et je ne le remets pas en cause ». Parce que derrière, je suppose que les sommes peuvent être importantes, hein, à une échelle de plusieurs centaines, voire de milliers de personnes, un régime collectif de mutuelle. En cas de redressement, c'est peut-être des dizaines de milliers d'euros en jeu.
C'est ça, tu as raison de rappeler le mécanisme. Aujourd'hui, la contribution patronale de l'employeur du coup, pour la mutuelle reste du coup exonérée de cotisation à condition que le régime reste collectif. Et du coup, l'employeur il doit faire attention à bien collecter et sauvegarder ses justificatifs pour les fournir du coup, à l'URSSAF en cas de contrôle. Et aujourd'hui, ben, les sommes peuvent être vraiment importantes en cas de redressement juste pour un justificatif manquant. Si on prend une contribution patronale de mutuelle, j'ai envie de dire moyenne en France, de 30 euros, ça fait 360 euros par collaborateur. Bah, si on doit du coup réintégrer cette somme, ça peut vite faire des montants qui sont importants juste pour un justificatif manquant. Mmh. Et c'est là où du coup, effectivement, avoir un outil ludique, facilement accessible pour les collaborateurs peut du coup permettre déjà une forme de sécurisation.
Mmh. Oui, et puis là, on donne un exemple, mais en fait, des mécanismes comme ça en droit français où on n'est pas assujetti à cotisation sociale, il y en a beaucoup. Je peux penser aussi au remboursement des transports en commun. Il faut montrer les justificatifs. Donc, on a cité la mutuelle. On parlait tout à l'heure des frais kilométriques qu'on peut rembourser dans le cadre de déplacement, mais il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qu'on donne dans le cadre des allées-venues quotidiennes du salarié. Donc finalement, le logiciel, tout ça, il le sait pas. Je suppose que derrière, on a besoin finalement de la compétence humaine et d'avoir des gens qui savent appréhender tous ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont bien, j'allais dire, équipées, disposent des ressources en interne pour faire face à ces enjeux? Quoi le retour d'expérience que tu as? C'est plutôt les grandes entreprises qui bénéficient de ces ressources et moins peut-être les petites et moyennes entreprises?
Alors, effectivement, aujourd'hui, en plus, on est dans un contexte de marché du recrutement sur ces métiers-là qui est quand même assez tendu. Hein. Donc c'est difficile aujourd'hui pour les entreprises de garder, quand elles ont des talents hein, sur des équipes paye ou RH, de bien les retenir. Mais effectivement, il faut derrière une équipe capée ou alors au moins du temps dédié. Pour une entreprise de plus petite taille, si elle n'a pas forcément une personne dédiée à ça, c'est voir comment est-ce que du coup elle peut dédier du temps sur ces sujets-là. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Mais les problèmes de sécurisation dépendent de la taille et du secteur d'activité aussi de l'entreprise.
Oui. Donc finalement, pour en revenir au point initial, les solutions technologiques, c'est bien en appui, mais rien ne remplace l'humain, et l'humain qui est formé, si je puis dire, et un praticien qui aime finalement, qui aime. En tout cas, j'espère qu'il aime, mais qui sait aussi être bon sur les sujets à la fois de droit, de chiffres, de paye, et donc qui arrive à jongler sur des aspects-là pour sécuriser finalement la pratique de l'entreprise. Parce que, rappelons-le peut-être, l'URSSAF peut remonter sur 3 années, donc s'il y a eu des erreurs qui ont été faites il y a 2-3 ans, on se dit pas non, c'est pas grave. En fait, ça pèse encore sur l'entreprise pour les années à venir.
Exactement, et du coup, le point que tu soulèves est très important, c'est qu'après un contrôle, il faut aussi être vigilant pour bien vérifier que tous les motifs de redressement du coup de l'inspecteur sont bien suivis, ont bien été modifiés dans la pratique de l'entreprise pour que du coup ce motif-là ne soit pas redressé une prochaine fois. Donc l'entreprise, après un contrôle, elle doit faire attention aussi à bien se remettre en conformité du coup pour la suite, pour sécuriser la suite.
Et donc on le rappellera peut-être jamais assez, mais les process RH, c'est pas fait juste pour faire joli, il faut qu'on s'appuie dessus, et puis c'est fait aussi pour survivre aux personnes quand elles quittent l'entreprise pour naviguer vers de nouveaux horizons. C'est bien là, à ce moment-là, de pouvoir se baser sur l'historique pour les personnes qui arrivent, pour qu'il y ait une continuité finalement, parce que c'est là aussi que le BAV peut blesser si on ne tire pas tous les enseignements du contrôle URSSAF qui a eu lieu précédemment. C'est dommage. Là, je suppose que l'inspecteur URSSAF sera beaucoup moins arrangeant la fois suivante s'il a déjà fait une première remontrance sur une thématique précise.
Première observation, oui. Et c'est là où, du coup, aujourd'hui, on se rend compte que le départ, par exemple, d'une personne clé, du coup, sur ces services-là, peut être vraiment problématique pour l'entreprise. Effectivement, il faut qu'il y ait un suivi sur ces sujets-là, du coup, dans le temps. Et c'est là où, par exemple, le livre blanc peut être une bonne solution. Le livre blanc, c'est comme un cahier des charges, un peu un recueil de toutes les pratiques de paye de l'entreprise, du coup, qu'on va rédiger et qui va permettre, du coup, de suivre ces sujets, de former aussi les nouveaux collaborateurs qu'on pourrait intégrer, du coup, dans l'équipe et d'assurer cette transmission, du coup, des connaissances, des compétences sur ce sujet-là.
Très intéressant. Bon, si on résume bien ce point, finalement, c'est la technologie. C'est bien l'humain, c'est fondamental derrière des personnes formées qui connaissent les sujets, s'appuyer sur un partenaire extérieur si on n'a pas les ressources en interne et qui peut aussi aider dans des phases de transition, le livre blanc vraiment pour se sécuriser, donc ne jamais se fier juste à l'outil, toujours creuser le sujet, ça c'est important. On a beaucoup parlé là jusqu'à présent de thématiques qui peuvent être un peu anxiogènes, c'est le contrôle URSSAF, les choses qui font peur, oh là là, on va devoir payer de l'argent. Mais je crois qu'au-delà de cet aspect contrôle, on peut aussi s'intéresser à l'aspect rémunération aussi, de regarder, parce que la loi française, on dit toujours c'est compliqué, mais elle permet de faire plein de choses intéressantes, et notamment dans un contexte qui est toujours un petit peu inflationniste, mais un petit peu moins que ces deux dernières années. J'entendais beaucoup dans les médias les problématiques de pouvoir d'achat des salariés, comment les entreprises pouvaient augmenter ce pouvoir d'achat sans que ça coûte énormément à l'entreprise, puisque on le rappelle aujourd'hui, alors même si l'actualité fait que ça va peut-être évoluer dans les semaines, mois à venir, puisque le Premier ministre Gabriel Attal a dit qu'il travaillait dessus sur la manière de désmicardiser la France. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes, je crois quasiment une vingtaine de pourcents qui sont proches du SMIC, peut-être un petit peu moins, mais ça grignote, j'allais dire. Et aujourd'hui, les entreprises, pourquoi elles n'augmentent pas les salariés, notamment ceux au niveau du SMIC? C'est parce qu'il y a beaucoup d'exonérations sociales et que les augmentations de ces salariés font perdre ces fameuses exonérations. Il y a d'autres dispositifs qui existent aujourd'hui. Peut-être qu'on ne les connaît pas assez. Est-ce que tu pourrais nous indiquer un petit peu les pistes que tu donnes pour se dire on peut augmenter le pouvoir d'achat des salariés sans forcément passer par du brut et donc sans forcément alourdir le montant de la masse salariale de l'entreprise de manière conséquente?
Oui, bien sûr, il y a plein de possibilités qui sont offertes à l'entreprise. Je voudrais juste revenir sur ce que tu disais par rapport aux personnes qui sont rémunérées au niveau du SMIC. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la réduction générale, donc du coup pour les personnes les moins bien rémunérées dans l'entreprise, elle représente encore plus de 30 milliards d'euros chaque année d'allègement de charges sociales. Au niveau individuel, ça représente, pour une personne sur 35 heures qui est rémunérée au SMIC, ça représente quand même 6 700 euros par an d'allègement de charges, de réduction de charges pour l'entreprise. Pour une collaboratrice qui serait rémunérée à hauteur de 25 000 euros bruts, ça représente encore 4 700 euros par an. Donc c'est quand même encore énorme.
Oui, d'où l'intérêt pour l'employeur de les conserver, puisque c'est des aides quand même conséquentes pour l'entreprise.
Effectivement. Et là où tu as raison, ce qui est dommage, c'est que du coup, l'employeur, quand il veut augmenter du coup, une personne qui aujourd'hui est rémunérée à hauteur du SMIC, eh ben, du coup, ça va effectivement coûter beaucoup plus cher à l'entreprise, du fait qu'elle va perdre du coup, cet allègement. Mais aussi pour le collaborateur, ce n'est pas forcément aussi intéressant, parce que lui, il va perdre à côté sur d'autres avantages sociaux, des prestations familiales, des réductions, des impôts qui seront aussi à zéro ou moins importants. Et du coup, ça n'encourage pas à augmenter ces personnes-là qui, du coup, au final, l'employeur va vouloir faire un effort, mais il ne va pas pouvoir augmenter la personne en même proportion que ce qu'il aurait voulu.
Oui, parce qu'en fait, il y a deux dimensions. Il y a la dimension sociale, c'est-à-dire de ce que payent les cotisations de sécurité sociale qui pèsent à la fois sur le salarié, mais elle qui ne varie pas beaucoup. C'est globalement toujours 22-23% de taux de charge, mais c'est plutôt côté employeur, où là, quand on est autour du SMIC, on est à quoi, autour de 5%. Et quand on va augmenter, on va vite passer des paliers 10, 15, 20, 35, voire 40 et plus pour cent pour les rémunérations supérieures à 2,5 pour le SMIC ou plus. Mais il y a aussi l'aspect fiscal que tu évoques. Là, finalement, c'est que si je gagne plus, Il y a des aides qui sont liées directement à mon revenu que je ne touche plus. Ça, l'employeur, il n'en a pas forcément conscience non plus. Et pourtant, le salarié, lui, ce qu'il va regarder à la fin du mois, c'est mais j'ai moins pour vivre finalement. Ou alors, vous m'avez augmenté, mais je ne l'ai pas vu. Ça peut être frustrant quand même pour les entreprises. C'est-à-dire, je fais un effort, ça me coûte cher. Pas de reconnaissance, pas de fidélisation derrière du salarié. Donc comment on se tire de tout ça finalement aujourd'hui? Quelles sont les pistes? Est-ce que tu en as Moi j'ai des idées, mais je suis sûre que tu en as d'autres à me proposer aussi.
Effectivement, dans ces cas-là, l'intérêt pour l'employeur, c'est d'essayer de ne pas forcément ajuster la variable de la rémunération brute, du coup, qui est soumise à charge. Donc il va falloir trouver d'autres possibilités de rémunération, par exemple essayer de proposer plutôt des avantages qui sont du coup en net, dont on parlait tout à l'heure, accorder un avantage qui serait moins coûteux du coup pour l'entreprise. Je reviens juste aussi sur le sujet des aides à l'embauche qu'on oublie aussi un petit peu.
Oui.
Ça, c'est plus côté entreprise. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un prochain podcast. C'est vraiment exploiter aussi toutes les aides à l'embauche dont on ne pense pas forcément.
Et donc les aides à l'embauche, là, c'est côté entreprise,
oui.
C'est finalement vous embaucher, je sais pas, un apprenti par exemple, puisqu'on a beaucoup parlé des aides à l'embauche pour les contrats d'apprentissage, mais il y a d'autres types d'aides à l'embauche, pas uniquement selon certaines zones. Il y a des zones franches urbaines, c'est ça aussi.
Les emplois francs.
Donc tout ça fait que on subventionne quelque part l'emploi pour certains types de contrats ou pour certaines zones. D'emploi, finalement.
Exactement. Okay. Et on favorise à ce moment-là l'embauche. Du coup, je vous invite à écouter le podcast sur le sujet qui sera très intéressant.
Donc ça, c'est très bon côté employeur. Côté salarié, on a vu beaucoup de dispositifs cette année. Alors, le plus connu, il y en a beaucoup qui sont connus, mais dernièrement, on a beaucoup parlé de primes de partage de la valeur. Ça, c'est intéressant, finalement. Côté social pour les entreprises, il n'y a pas de charge. Alors, pour les entreprises de moins de 250 salariés, finalement, c'est zéro. Ça coûte zéro. Ce qu'ils versent 100, c'est 100 euros qui vont constituer de la rémunération des collaborateurs. Pour les entreprises de plus de 250, je crois qu'il y a quand même 20% de forfait social. Mais derrière, côté salarié aussi, il me semble que c'est très avantageux puisque c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est encore net d'impôts et de CSG-CRDS. Et je crois qu'il y a de la CSG-CRDS et de l'impôt pour les salariés si on est au-dessus de s'il ne les place pas sur un support d'épargne salariale. Mais finalement, quand même, ce type de dispositif, c'est quelque chose à encourager, puisque là, typiquement, on ne rentre pas dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Donc, finalement, si je verse une PPV, ça ne va pas avoir d'incidence sur mes exonérations de cotisations de sécurité sociale. C'est ça le principe de ces mécanismes, finalement.
Exactement. Et du coup, c'est un dispositif qui est de plus en plus utilisé par les entreprises, mais qui n'est pas encore autant exploiter qu'on pourrait le faire.
Oui, je voyais les chiffres, alors ça dépend des détails, mais sur les petites entreprises, on était entre 20 et 30% d'entreprises qui versaient ces dispositifs. C'est finalement assez peu, alors que c'est plutôt fait pour elles en plus, puisqu'elles n'ont pas forcément les moyens de mettre des accords de participation, d'intéressement, qui sont également des dispositifs très avantageux, mais qui, bon, on va se le cacher, il y a une certaines complexités, en tout cas on voit ça comme quelque chose de compliqué sur un plan administratif à mettre en place et à suivre dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs que tu vois comme ça qu'on pourrait aller chercher plus simple d'accès que de la prime de partage de la valeur?
Alors, du coup, on peut proposer du coup plusieurs types d'avantages aux collaborateurs. Hein, tout ce qui va être ticket restaurant, chèque vacances, chèque CESU, les chèques de service d'emploi des personnes à domicile ou d'autres avantages comme ça. Aujourd'hui, la vraie tendance, c'est de proposer une rémunération sur mesure qui est de plus en plus individualisée et de plus en plus flexible du coup pour les collaborateurs. On propose un package avec plusieurs types d'avantages. Et du coup, à l'intérieur, le collaborateur va pouvoir piocher. Moi, j'ai des enfants, donc je préfère les CESU, par exemple, pour du coup payer les activités. Moi, je vais plutôt faire beaucoup de télétravail à la maison, donc je préfère qu'on soit plus sur de l'indemnité de télétravail, qui peut être exonérée aussi dans certaines limites, ou autre. Donc, c'est proposer un package, et du coup, le collaborateur vient piocher à l'intérieur ce qui l'intéresse.
Oui, donc ce qu'on comprenne bien, en fait, c'est une espèce de cagnotte. Et en fonction de l'utilisation, alors on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, il faut que ce soit fléché vers un dispositif légal existant, mais on peut adapter l'usage qu'on en fera en fonction de nos besoins. Il y a beaucoup d'applications d'ailleurs qui sont sorties récemment qui aident à mettre en place ces éléments-là pour les collaborateurs.
Effectivement, il y a de plus en plus de solutions aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché, c'est un fait. Après, je voudrais juste qu'on fasse attention sur ce sujet-là, c'est qu'on en revient à ce qu'on disait du coup au début, avec le caractère collectif, hein, par exemple, de la mutuelle. Il faut faire attention, c'est que normalement, les avantages, quand ils bénéficient du coup d'exonération, c'est des avantages qu'on a proposés normalement à tous nos collaborateurs, ou en tout cas à la même catégorie de collaborateurs. Sinon, on en revient encore à un dispositif qui, du coup, n'est pas collectif et, du coup, ne peut pas forcément avoir les exonérations qui sont associées.
Donc, oui, point important, c'est-à-dire que, finalement, le caractère avantageux socialement et parfois fiscalement du régime est directement lié au fait qu'il soit collectif. S'il est plus collectif, ça tombe. Donc, ouais, ça, c'est un point important parce que, finalement, si on veut faire la rémunération individuelle... Ça sera du salaire brut et donc là, on paiera plus de cotisations sociales. Pas d'autre choix là, finalement.
Effectivement. Donc du coup, l'entreprise aujourd'hui, elle a à sa disposition toute une palette de possibilités coup, pour essayer d'optimiser les rémunérations ou les charges sociales. Mais il faut du coup toujours faire attention. Du coup, à chaque fois, les conditions aujourd'hui sont floues des fois et multiples sur certains dispositifs. Et c'est important de faire attention, voilà, quels sont les dispositifs que je peux proposer dans ma structure.
Oui.
Est-ce qu'elles sont cumulables? Certains dispositifs ne sont pas forcément cumulables entre D'accord. eux, donc il faut aussi faire attention à ça. Et voilà, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ça reste des sujets qui sont très techniques. Et il faut quand même avoir une certaine expertise en interne ou en externe sur ces sujets-là.
D'accord, oui, pour éviter justement derrière de craindre que ce qu'on pensait être un avantage peu coûteux, 3 ans plus tard, quand l'URSSAF revient, nous dise « Ah, vous ne pouvez pas le faire de cette manière-là ».
Exactement.
C'est ok, ça. Donc le message c'est envisager des dispositifs alternatifs à de la rémunération brute. Alors moi, ce que je dis toujours, c'est un équilibre à trouver. Évidemment, la rémunération brute doit être la base et il faut continuer à en verser. C'est quelque chose sur lequel sont calculés
les droits
à retraite future, retraite de base, retraite complémentaire à Agirc-Arrco, les droits chômage, les droits aussi en matière d'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais il faut aussi se mettre dans les baskets, finalement, de l'entreprise qui est peut-être confrontée à des problématiques de coûts. Et donc, au lieu d'augmenter juste en brut, il peut être bien de panacher. Et donc là, on a cité prime de partage de la valeur, intéressement, participation, qui sont des classiques, mais aussi ce qu'on appelle les périphériques de rémunération, titre restaurant, chèque CESU, chèque culture, enfin la liste pourrait être longue. Ça, c'est intéressant d'un point de vue collectif à mettre en place, mais attention à ne pas tomber de se prendre les pieds dans le tapis sur des dispositifs légaux, sur des conditions d'application qui feraient perdre les avantages de ces éléments-là. Très intéressant, j'espère en tout cas que ça inspirera les personnes qui nous ont écoutés. Écoute, j'étais ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ces sujets et j'espère que vous serez nombreux à nous retrouver dans les prochains épisodes de La Voix des RH. Merci Marion.
Moi aussi, merci Vincent.